On est très content d'accueillir Régis. Pour une fois, c'est un membre du club qui fait un café photo. On a souvent invité des photographes, mais là, on est très heureux que ça soit Régis. Il apporte beaucoup au club. Il a plein d'idées, il a plein d'animations, de choses. Il nous aide beaucoup, donc on est très très content et très fier aussi qu'il fasse ce café photo. Il a bourlingué pas mal, donc vous allez voir ses photos, il va vous expliquer tout ça.
Eh ben merci Chantal de m'avoir invité. C'est vrai que ça fait 16 ans que je suis au club de Saint-Hilaire. Voilà, où chaque adhérent essaie d'apporter un petit peu ce qu'il peut pour animer le club et puis pour faire vivre cette association. Et puis pour beaucoup d'entre nous, ben la photographie c'est une passion, donc c'est sans problème. Voilà, donc c'est intitulé voyageur photographe et non pas photographe voyageur. Hein, vous voyez, vous notez la différence. Parce que moi, je suis qu'un, à la rigueur, un voyageur. Je suis pas un photographe professionnel, même si je fais la photo depuis maintenant 1973. Je n'en vis pas, même si j'ai, vous verrez, des productions diverses et variées. Comment on va procéder ? Je vais vous présenter un certain nombre de photos. Hein, je crois que vous êtes venus pour ça. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai démarré la photo en 1973 à Dunkerque, puisque je suis originaire de là-haut, où j'ai vécu 25 ans. Et donc, ce qui m'intéressait, quand j'ai démarré la photo, c'était raconter des histoires. Et en fait, ça m'est resté, parce que ce que j'aime bien faire en photo, c'est des séries. On n'est pas obligé de faire des séries, mais disons que moi, c'est là que je m'éclate le plus. Et donc là, c'était une série, vous verrez, un petit peu, qui parle peut-être du choix, de l'hésitation. Donc ça s'était réalisé bien sûr à l'époque en argentique, chez moi. J'avais un mur où il n'y avait pas de tapisserie, il y avait une jolie lumière qui venait sur la gauche. Donc voilà, à l'époque j'avais fait les tirages moi-même. Alors bon, j'ai scanné tout ça, vous voyez, donc forcément les photos ont maintenant, 73 maintenant, elles ont eu 50 ans, donc ça fait bizarre de dire ça d'ailleurs. Donc, c'était une petite production de l'époque, mais ça m'a toujours intéressé de faire des choses comme ça, un petit peu des fictions. Pendant longtemps, j'ai hésité entre la photo et la vidéo. Et puis finalement, c'est vrai que j'avais vu La Jetée de Chris Marker. Je sais pas si vous connaissez ce film, qui est en fait, enfin, c'est pas un film, c'est une succession d'images. Et je me suis dit qu'avec l'image, on pouvait faire aussi du mouvement, on pouvait faire vivre les choses. À l'époque, la photographie française, on sortait du courant humaniste, mais je sais pas si vous connaissez, il y avait un photographe qui s'appelait Jean Loussieff, qui faisait des noirs et blancs très contrastés, et c'est vrai que ça m'inspirait un petit peu. Alors là, la maison que vous voyez derrière, enfin, là, c'est pour ceux qui sont à peu près le même âge que moi, vous reconnaissez la voiture, hein, une Amicis. Et la maison derrière, c'est ce qu'on appelait la maison du pendu à Ouaplage. C'est couru par les photographes, surtout maintenant, à l'époque un peu moins. Et en fait, c'est une maison inhabitée, un peu en ruine, et voilà, qui a son charme, quoi. Donc on y allait assez souvent pour faire des photos. Maintenant, le problème, c'est que le port de Dunkerque, quand j'étais gamin, le port, il était dans la ville, bien sûr. Et puis, un peu à la fois, les bateaux ont grossi. Donc, et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'avant-port, auquel on n'a plus accès. Et donc, ça situe. Pardon, c'est une zone, maintenant, je pense, qui est, on ne peut plus y aller. D'autant plus que, vous savez, on parle toujours des usines de piles et tout ça, de batteries qui sont installées à Dunkerque. Il y a encore pas mal de terrains industriels et je pense qu'ils se sont installés dans ces coins-là. Donc je pense pas que. Enfin, je sais pas s'il y est encore, mais je pense pas qu'on puisse y aller. On a encore des amis à Dunkerque qui disaient que ça devenait difficile ou qu'on pouvait plus y aller. Et puis, les années ont passé. La famille, les enfants, je continuais toujours à faire de la photo de ma famille, des photos de montagne, on faisait pas mal de montagne. Et puis sont arrivées les années 2000. Les années 2000 avec, bien sûr, l'arrivée du numérique. Moi qui n'étais pas un très bon tireur, pas assez méticuleux, minutieux pour faire du labo, j'ai vu arriver le numérique avec un certain soulagement. En 2003, lors d'une course en VTT, Malheureusement, j'ai un accident, et un accident médical aussi, puisque je vais perdre la vue sur l'œil gauche, totalement. Ce qui change la vie, qui change la vue, bien entendu. Pendant 2-3 ans, ça n'a pas été facile, et la photo m'a beaucoup aidé. Je pense que la photo, c'est une très très bonne thérapie. Plage du Nord, je suis parti du Nord sans forcément retourner très très longtemps. Je ne suis pas retourné souvent, je veux dire. Et 20 ans, 25 ans après, j'ai retrouvé mon pays, mais avec ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé moi, un œil de touriste averti. Bah, je connaissais les endroits, évidemment. Là, c'est la plage de Malo-les-Bains, pour ceux qui connaissent là-haut. Voilà, donc à l'époque, j'aimais bien le carré, que j'aime toujours, hein, mais à l'époque, c'était pas du carré natif hein, pour les photographes, je recadrais, mais je concevais la conception de mes photos en carré. Bien sûr, des couleurs, parce que j'aimais bien et j'aime encore, bien sûr, Martin Parr, photographe anglais, Harry Gruyart, tout ce qu'on appelle les coloristes. Donc j'ai essayé d'attraper un petit peu ces scènes de la vie de la plage. Je me rappelle quand j'étais gamin, là, on construisait des trous comme ça, on s'amusait toute l'après-midi, les parents étaient contents, ils avaient la paix. Dans le Nord, vous savez qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Quand il y a du soleil, les gens en profitent vraiment. Et donc là, les gens, d'ailleurs, c'est pas très bon, se font vraiment rôtir. Hein, comme on sait pas si le lendemain, il y aura du soleil, on en profite. Mais c'est pas très bon. Par rapport à ce que je vous disais, la vision monoculaire, comment on coupe les distances. Vous n'avez plus l'impression des distances. Donc, ce qui est un avantage pour moi en photo, parce qu'en fait, ça m'amène à faire des compositions qu'on ne fait pas forcément, en ayant deux yeux qui fonctionnent. Donc, beaucoup de couleurs. Bon, j'aime bien dans le carré, hein, vous connaissez la liberté de composition qu'il y a dans le carré, il n'y a pas de règle des tiers, il n'y a rien qui s'applique, donc on fait ce qu'on veut dans le carré. C'est un format magique, extraordinaire. Les lumières du Nord, hein, c'est pas pour rien que les peintres sont allés peindre là-haut, parce que la lumière est souvent magique. Je ne travaille pas au syndicat d'initiative du Nord-Pas-de-Calais, hein, mais c'est quand même une très très belle lumière. Quand on est dans le midi, souvent à 10h du matin, on range l'appareil, on le ressort le soir à 20h. Là, dans le Nord, on peut faire de la photo toute la journée. Avec ma femme, une année, on a fait la côte belge, 70 km de long, de à peu près La Panne, la frontière, on va dire, jusqu'à Knokke-le-Zoute. Chaque année, il y a un concours, une exposition d'art contemporain sur la plage. Et donc là, comme il ne manque pas d'humour, les Belges, ils avaient mis tous ces trucs avant, là, voilà, très colorés. Donc forcément, là, la photo est un peu donnée. Il suffit d'attendre qu'il y ait des gamins qui passent et puis la photo est faite. À l'époque, je recadrais mes photos sans format homothétique. Vous savez, le format homothétique, 2/3, 3/4, etc. Après, quand il a fallu imprimer, c'était autre chose. Mais à l'époque, je recadrais un peu comme je l'entendais. Donc il y a un peu du carré, il y a du format classique, il y a du format panoramique. Donc, bah oui, ne pas s'entrer en photo, comme quoi les règles, on peut les contourner. J'aime bien contourner les règles. Hein. Ça, c'est. On voit la ville de Ostende, dans le fond. Alors, Ostende, la côte belge, c'est, on va dire, 3 km Costa Brava, c'est-à-dire des immeubles de 10 ou 12 étages, et 3 km de dunes, et comme ça. Mais ça manque pas de charme, hein, si je vous incite à y aller. C'est très, très particulier comme ambiance. Et donc, pour chaque série. Que je fais, souvent ça donne lieu à une expo. Celle-là, elle avait été exposée à Chabeuil en 2010. Et puis je fais un petit catalogue d'exposition. Alors je travaille avec la société Blurb, qui est assez chère, il faut attendre les promos. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez télécharger leur logiciel pour faire votre livre, vous le stockez. Et quand vous êtes inscrit à leur letter, vous voyez passer des promos et vous commandez à ce moment-là. Donc c'est pas inintéressant, mais ça reste quand même trop cher pour les diffuser à plusieurs exemplaires. Quoi. Enfin, tout au moins, à 30 euros, les gens ne veulent pas les acheter, donc c'est pas la peine d'en faire plusieurs. Et je suis retourné à Dunkerque il y a maintenant 4 ans. Et j'ai refait des photos. Alors, si vous voulez vous amuser à regarder les différences. C'est vrai que la première série datait de 2008-2009, et là, ça date il y a 3 ans, quoi, 2021, et j'ai fait des choses totalement différentes. La preuve qu'un photographe, ça évolue. Et Et j'avais encore plus ce sentiment d'être chez moi sans être chez moi. Enfin, c'était assez étrange. Mais il est vrai que j'ai fait ce retour à Dunkerque après avoir fait un stage à Chabeuil avec Pierre de Vallombreuse. Donc le stage, c'est 5 jours à Chabeuil. Et Chabeuil, c'est pas bien grand. Donc au bout d'un moment, on se dit, on est obligé de faire autre chose que ce que l'on sait faire. Et c'est ce qui est intéressant. Parce que forcément, moi, je suis sorti de ce stage avec un regard photographique totalement modifié. Quoi. Donc une très très bonne expérience. À Dunkerque, vous savez, il y a le carnaval. Hein. Tout le monde le connaît à peu près. Avant le carnaval, il y a ce qu'on appelle le bain des givrés. Le 1er janvier, les gens vont se baigner. Au départ, ils étaient une dizaine et d'année en année, maintenant, ils sont 2 à 3 000 à aller dans l'eau et il y a 10 000 personnes qui les regardent. Là, moi, les photos que j'ai faites, pareil, 2 années, 2012-2013, c'était encore pas encore trop de monde. Alors, comment ça se passe? Bien sûr, tout le monde a sorti son kletch. Le kletch, c'est l'habit de carnaval qu'on a rangé l'année d'avant. Et on attend avec impatience de pouvoir le ressortir. Et donc là, ça y est, ils sont déguisés et ils attendent sur la digue parce qu'il y a de la musique, les fifres et les tambours. Et ils n'ont pas encore le signal d'y aller. Donc, il y a cette dame avec son porte-voix qui demande là aux spectateurs de s'écarter parce que quand ça va être le moment, tout le monde va courir dans l'eau. Voilà. La dame que vous voyez là, c'est la dame qui est à l'origine du bain des givrés, hein. En 2000. En 2000, ils ont fait une espèce de défi. Allez, on va se baigner demain, etc. Et c'est vrai que c'est un défi. L'eau est quand même à 8 degrés, 8, 9 degrés. Bon, pas être frileux, quoi. Hein. Et puis des fois, sur la plage, il fait moins que ça. Hein. Donc vous avez compris qu'à Dunkerque, on a un sixième sens, hein, c'est donc le sens de la fête. Hein. Ce reportage, je me suis vraiment régalé parce que ça me rappelait mon adolescence quand je faisais carnaval. Et là, je suis au grand angle, je dois être à 1 mètre, même pas du gars. Là. Ils aiment bien se faire photographier les carnavaleux. Donc voilà, comme je disais, il y a toutes les générations. Donc on va pas rester à Dunkerque, on va voyager un petit peu quand même. Parce que... Et donc... toujours à Dunkerque, un jour, moi j'étais au lycée, il y a un gars qui arrive du midi, et on comprenait à peine ce qu'il disait, forcément, nous on n'avait pas l'habitude, et c'était l'inverse aussi, quand il parlait, on ne comprenait pas forcément ce qu'il disait. Déjà, comme tout le monde s'appelait avec des noms flamands, Van de Wertwerker et Verhaag, et une fois qu'on avait fini les flamands, on attaquait les polonais, Poznanik, Wieczorek, il était complètement perdu le pauvre. Et il nous raconte que chez lui, il y a aussi de l'industrie. Moi, je dis, oh non, c'est pas vrai. C'est nous qui avons les usines, l'industrie, la pollution, tout ça. Il dit, non, chez nous, on a Port-du-Bouc, on a Fos-sur-Mer. Il était de l'ensemble de Provence. Effectivement, en me renseignant un petit peu, en fait, en France, il y avait ce qu'on appelle le triangle de l'acier, hein, du temps où il y avait encore de l'acier en Lorraine. Il y avait de l'acier, bien sûr, dans le Nord. Port-du-Bouc, Fos-sur-Mer, ça avait été un plan dans les années 60. Hein, on a construit la Camargue, on a construit la Grand Motte et on a construit Port-du-Bouc. Donc je suis allé là-bas, comme j'ai de la famille à Marseille, c'est aussi facilité. Je suis allé là-bas pour prendre un petit peu cette industrie au soleil, quoi, puisque nous, on a de l'industrie, mais pas forcément au soleil. Donc là, j'ai mis un traitement un petit peu particulier. Donc, bon, ça a donné une exposition aussi. J'ai refait un petit peu les tirages en accentuant moins les couleurs. Sur chaque photo, bon, comme son nom l'indique, Paradis perdu, j'ai essayé d'avoir un petit peu de nature encore, hein, le paradis avant, et puis l'industrie qui est derrière. Mais là, je vous assure que la fumée était vraiment rouge. Hein, c'est pas moi qui ai coloré la fumée, c'est vraiment d'origine. Et donc, on est allé plusieurs fois se balader là-bas. Et bon, j'avais ce souci de composer ces séries de photos. Alors, j'avais postulé une année à 7, il y avait une image particulière, il y avait le off. Et je postule, c'était sur la Méditerranée. Bah, je dis qu'il y a un temps en plein dedans. Je postule, j'envoie le dossier le mardi. Le jeudi, la dame, elle m'appelle, elle me dit oui, c'est bon. Parce qu'en fait, bon, c'est vrai que c'est une vision particulière de la Méditerranée. Alors là, c'est chat. Tout le monde me dit « Ah, t'as fait un beau montage ». Ben non, c'est pas un montage. En fait, à gauche de la photo, il y a une conserverie. Et les gars de la petite usine, là, de temps en temps, viennent donner du poisson aux chats. Donc en descendant de la voiture, je vois tous ces chats sortir des fourrés, là, vous voyez, ils sont pas squelettiques, hein. Ils sont bien nourris. Et donc, ils vivent là en attendant que les gars viennent les nourrir, quoi. Photo de rue avec des chats. Voilà, donc là, il y a un pipeline qui passe au milieu de ces maisons qui... Il y en a beaucoup qui ne sont plus habitées, hein. On va partir en Inde cette fois-ci pour plusieurs voyages. Bon, je travaillais en maison familiale rurale. J'enseignais le PS et également la photographie, une classe de terminale. Donc pendant une vingtaine d'années, la maison familiale de Châteauneuf-sur-Zère est allée en Inde, à différents endroits, pour des voyages humanitaires au départ, solidaires ensuite. Parce qu'en fait, les maisons familiales dépendent du ministère de l'Agriculture. Et il y a toujours eu une mission du ministère de l'Agriculture de développement et d'aide à ces populations en difficulté. Donc on s'inscrivait là-dedans et on est parti en Inde. Moi, je suis parti 10 fois en Inde, 5 fois avec les élèves et puis 5 fois avec ma femme ou des amis. Donc l'Inde, bah oui, 3 300 000 km², 6 fois la France. Une trentaine d'États, autant de langues parlées, 80% hindouistes, musulmans, bouddhistes plutôt dans ce coin-là, mais par ailleurs non, quelques catholiques encore au Kerala. Voilà, donc un patchwork de populations, de langues. Et donc les premiers voyages, c'était ici, hein, on allait avec les élèves à Pondichéry. Vers Pondichéry, on travaillait avec une association qui s'appelle Village Community Development Society, qui venait en aide aux intouchables. Vous savez qu'en Inde, il y a les castes, et en dehors des castes, au plus bas, il y a les intouchables. Donc, on travaillait avec Emmaüs International, et on partait 3 semaines à l'époque, 3 semaines pour construire des plateformes pour faire sécher les céréales. Donc, bon, je ne vous dis pas le dépaysement, pour moi aussi, pour moi, et puis pour les élèves également, des élèves qui avaient souvent rarement voyagé. On a travaillé avec différentes associations. Ensuite, on est allé au Rajasthan, chez Ramesh, qui est un éco-village. Voilà. Et puis moi, à titre personnel, ben, on est allé à Calcutta. Et le dernier voyage, ça a été Bombay-Cochin, la côte ouest. Mais l'Inde, vous pouvez y aller 10 fois. Et moi, je connais le pays, mais on peut encore y retourner 10 fois, il n'y a pas de souci. Hein. Donc les chantiers, ben voilà, c'est déroulé de cette façon-là. Sur les 3 semaines, on restait 4-5 jours au centre qui formait les intouchables. Et après, on partait dans les villages, habiter dans le village. Donc vous imaginez bien la proximité avec la population, la possibilité pour moi de faire des photos. Ça a vraiment, pour moi, enfin, réveillé ce besoin de faire des photos. Donc là, évidemment, il n'y a pas de brouette en Inde, parce qu'autrement, ça tuerait 10 emplois, hein, donc c'est pas la peine. Donc tout est comme ça, là, c'est des bassines en plastique, mais normalement, ce sont des bassines en ferraille. Et on construisait ces plateformes, voilà notre plateforme construite. Hein. Alors les Tamouls, parce que là, on est au Tamil Nadu, sont très forts pour les inaugurations. Ils font venir des chanteurs, il y a une petite scénette. Là, les élèves, les filles avaient eu des saris, etc. Donc, très, très belle organisation. Malheureusement, je suis retourné quelques années après et c'est souvent un petit peu le problème quand on apporte un petit peu des installations comme ça. En fait, il y a une plateforme que j'ai construite avec les élèves qui est en très mauvais état, quoi. Mais bon, elle existe encore. Et puis après, on a changé d'association, hein, parce qu'on trouvait que la première, c'est aussi des fois un peu le problème dans l'humanitaire, c'est que l'argent, on ne sait plus trop où il va, ça finissait par coûter très très cher. Et on a changé d'association, toujours au Tamil Nadu, à Alapundi, un petit village à côté de Jinji. Et là, c'était une association, GRRC, Gandhi Rural Rehabilitation, Center, eux, ils vendaient au départ du textile et il y avait une petite crise dans le textile, ça ne se vendait plus trop, donc ils produisaient de la spiruline. Donc nous, on était là pour remuer un peu les bacs, ramasser la spiruline, la faire sécher sur les toits. Voilà, donc là, on voit le geste, on passe ça dans un filtre et en fait, il reste que la spiruline. Après, il la vendait en poudre, soit sous forme de petits cachets qu'on peut acheter dans nos pharmacies, quoi. C'est intéressant parce que, en fait, il y a une plus-value très importante, hein, sur ce genre de produits. Alors, les bénéfices servaient à aider les enfants handicapés du canton. En Inde, pour les enfants handicapés, il n'y a rien. Souvent, quand vous avez un enfant handicapé, c'est que vous êtes mal comporté dans la vie précédente, donc vous vous débrouillez, quoi. Et donc, ils ramassaient, avec l'argent qu'ils avaient, qu'ils récoltaient, il y avait un bus qui ramassait les enfants dans les hameaux, dans les villages, et il y avait un centre qui recevait ces enfants pour les scolariser, et les élèves donner un coup de main. Et puis, pendant qu'on y était, évidemment, on a fait de la photo. Et cette année-là, on avait choisi comme thème le portrait. Donc, 2-3 après-midi, on est parti dans le village faire des portraits. Et on a organisé une petite exposition que je vais appeler virtuelle parce que je vais expliquer, elle n'a pas duré très longtemps. Et dans le village, on a eu de la chance, il y avait un petit photographe qui, le pauvre, ne travaillait que quand il y avait de l'électricité, puisqu'il était en numérique. Et c'est souvent que dans les villages en Inde, à l'époque, il n'y avait pas toujours d'électricité. Ou alors ça s'arrêtait, vous ne saviez pas quand ça recommençait. Donc là, on avait exposé toutes les photos sur le fil. Et puis évidemment, la nuit, que les enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient au-dessus de la barrière et ils venaient choper les photos. Alors, il y avait dans le village ce petit photographe qui... J'amenais la carte SD et puis on développait. Alors, je sais pas si vous avez vu, on avait mis des petits bords ringards, là, vous voyez. C'est typiquement indien. C'était du numérique, comme on a chez nous, les mêmes machines, Fuji, là, claque, . Et donc, évidemment, on le faisait bien travailler, on était devenus copains. Donc, ce qui est sympa en milieu rural, c'est évidemment ces villages. Les maisons sont toutes petites, donc les gens vivent dehors. Nous, le centre où on était à peu près à 1,5 km du bourg. Donc souvent, le matin, on travaillait assez tôt. Donc l'après-midi, on avait du temps pour aller se balader. Et on allait au village et on passait au milieu de ce village. Donc évidemment, les gens avec nous avaient beaucoup de bienveillance parce qu'ils savaient ce qu'on faisait au GRRC. Donc au niveau prise de photos, c'était paradisiaque, quoi. Donc moi, j'en ai bien sûr profité pour faire pas mal de photos. Et c'est devenu une série qui s'appelle Alapundi, village du Tamil Nadu. À l'époque, beaucoup, beaucoup de vélos. On y est retourné en 2021. Bon, vous savez que l'Inde, puissance économique, future puissance économique, la croissance, même si elle profite beaucoup à certains, elle profite quand même un petit peu à tout le monde. Et maintenant, ils sont beaucoup passés en moto. Ils ont beaucoup de motos. Avec malheureusement le gros problème de toutes ces villes, New Delhi, etc., 16 millions d'habitants. Évidemment, il n'y a pas les infrastructures routières pour accueillir tout ce beau monde, donc il y a vraiment énormément de pollution. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations là, ces temps derniers. À New Delhi, on ne pouvait plus sortir. Bon, une année, les élèves ont vécu ça. Moi, j'y étais pas, mais ils ont été enfermés 2 jours dans l'hôtel. Dès qu'il n'y a plus de vent, pas non plus une machine à laver. Bon, les femmes vont dans des espèces de bassins pour laver le linge. Et puis, le moyen de transport, le vélo, 4 personnes sur un vélo, ça, c'est assez fréquent. C'est vrai que quand on voyage, le numérique, c'est quand même sympa, parce qu'on peut montrer ce qu'on prend. Et en général, ça marche bien. Les Indiens, vis-à-vis de la photo, sont très sociables. Ils adorent la photo. Souvent, ils vous appellent pour qu'ils le preniez en photo. C'est pas un pays où il y a un problème à faire de la photo, quoi. Et donc, beaucoup, beaucoup de vie à l'extérieur. Voilà. Donc, les femmes indiennes sont toujours très colorées, bien sûr. Des très beaux saris, des fleurs dans les cheveux, des bijoux. Et donc, j'ai fait pas mal de portraits aussi dans ce village. On est allé aussi au Tamil Nadu, la capitale, c'est Chennai. Et il y a une plage qui s'appelle Marina Beach. Marina Beach... c'est là que viennent les habitants de Chennai. Hein, c'est une ville de 3 millions d'habitants qui viennent prendre le frais. Et donc sur cette plage, dans la journée, il n'y a rien. Et puis le soir, il y a plein de petits commerces qui s'installent. Et des petites gypsies, là c'est une gypsy, une gitane, qui vient faire un petit numéro. Voilà. Donc un endroit très sympa si vous allez à Chennai. Voilà. Lui, il vend, c'est de la barbe à papa, hein, bien colorée. Donc on peut se restaurer. Quand on est touriste, il vaut mieux éviter ces petites, comment on appelle ça là, ces petites tasses avec des fruits, parce que alors là, pour attraper la cagagne, il n'y a pas mieux, étant donné que c'est nettoyé avec de l'eau qui n'est pas buvable, attention. Mangez ce qui est cuit, mais ce qui est cru, au moins lavez-vous même. Et sur cette plage, il y avait un photographe. Ce photographe, c'est ce qu'il faisait. Eh bien, en fait, les Indiens viennent se faire photographier avec des vedettes de cinéma. Alors nous, on ne les connaît pas, mais les gens que vous avez à gauche, là, je ne les ai pas rajoutés avec Photoshop, ce sont des grandeurs nature et en bois. Hein. Donc vous choisissez votre vedette, vous mettez à côté d'elle et il fait une photo. Alors j'en ai à la maison, mais avec des vedettes que je ne connais pas. Voilà. Et donc voilà le photographe, hein, qui sont bien organisés, hein, parce qu'ils ont un appareil photo, ils ont une petite imprimante. Ils prennent la photo, la carte SD, et 5 minutes après, vous partez avec votre... pour 100 roupies, hein, 1 euro. Et pour moi, le dernier voyage avec les élèves, ça a été au Rajasthan. Hein, très, très beau pays. Culturellement totalement différent de l'Inde du Sud. Et on avait des chantiers de ramassage d'ordures. Voilà. Et Dieu sait si en Inde, il y a du travail. Hein, parce qu'ils ont accès maintenant à la consommation, pour beaucoup. Et malheureusement, non, rien, il n'y a pas de poubelle. Moi, je bois souvent, des fois, enfin souvent, du jus de mangue en bouteille, mais je vais pouvoir passer 3 heures avant de trouver une poubelle pour le mettre. Ils jettent tout, quoi, tout. Autre exemple, avant, ils buvaient du chai dans des petites, dans des verres. Maintenant, c'est gobelet, voilà, en carton ou en plastique. Et maintenant, vous savez, quand vous arrivez vers un vendeur de chai, vous ne l'avez pas encore vu, mais par contre, vous voyez plein de gobelets par terre. Donc dans les écoles, ils essaient, ils font de l'éducation, etc. Mais ils ont quand même beaucoup de problèmes avec le plastique. Et le dernier voyage qu'on a fait avec ma femme et un ami qui est au centre de la photo, Jean-Louis, hein, il avait sa fille qui travaillait à Calcutta, à Chalayam, qui est une association qui vient en aide aux enfants, hein, tous ces enfants que vous voyez là, ces ados sont des enfants qui ont été ramassés dans la rue. Et donc c'est une institution catholique qui les forme, leur donne un métier, et puis voilà quoi. Donc un internat, ils n'avaient pas l'air malheureux. Hein. Et donc on a visité Calcutta plusieurs fois, ville que j'aime bien en Inde, que j'aime beaucoup. Il y a des villes comme ça, vous débarquez, vous ne savez pas pourquoi, mais New Delhi... je trouve toujours qu'il y a des embrouilles, ça, c'est pas terrible. Mumbai, c'est un peu plus anonyme. Et Calcutta, je trouve que c'est très chaleureux. C'est l'ancienne capitale culturelle de l'Inde. Alors, est-ce que c'est parce qu'on y connaissait quelqu'un? Je sais pas, mais enfin, toujours est-il que on s'est bien régalé à Calcutta.
Régis David, photographe, invité de l'association Les Traqueurs d'Images pour sa conférence lors d'un café photo du nord de la France au sud de l'Inde. Enregistrement réalisé le 26 novembre 2024 dans la salle des fêtes de Saint-Hilaire-du-Rosier.